Avons-nous envie que Dieu nous parle? Nous allons faire une lecture dans Ésaïe 40. Avons-nous envie d'entendre selon nos désirs ou avons-nous envie d'entendre selon nos besoins? Il y a des chrétiens, ils ont envie d'entendre certaines choses. Vous le savez, ça. Nous avons besoin d'entendre sa voix. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Un petit peu plus loin, dans le chapitre 66, nous voyons sur quelle sorte de chrétien le Seigneur porte ses regards. Ésaïe 66, verset 1er. Chapitre 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je relis la partie du verset qui nous intéresse. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui craint ma parole. Dans le Deutéronome au chapitre 6, il y a un verset qui revient plusieurs fois dans l'Écriture. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné des commandements? Pourquoi Dieu avait-il conduit le peuple hébreu dans le désert? C'était au-delà des miracles, au-delà de la mer Rouge. Il y avait quelque chose que Dieu voulait leur enseigner qu'ils n'ont pas appris. À part quelques-uns. Deutéronome chapitre 6, versets 1 et 2. Pourquoi Dieu a-t-il donné des commandements? Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Au verset 23, le Seigneur redit la même chose. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans un pays qu'il avait donné, juré à nos pères de donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Oui, craindre l'Éternel afin que nous soyons heureux. Dans Ésaïe 56, nous venons de lire que la gloire de l'Éternel peut se manifester. Alléluia. Vous le croyez? Nous savons tous que nous sommes dans sa présence. C'est incontournable ce matin, que vous le croyez ou pas, que vous le sachiez ou pas, que vous le réalisiez ou pas, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais comme nous l'avons partagé mardi, la présence de Dieu ne suffit pas pour que sa gloire se manifeste. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Oui, vous allez voir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Les choses doivent être préparées. Jean-Baptiste a été l'instrument pour préparer le peuple à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe l'a dit, préparez. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des montagnes qui doivent être abaissées. Il y a des vallées qui doivent être élevées. Le Seigneur, même s'il est présent partout, s'il est omniprésent, il ne se manifeste pas sur n'importe quelle base. Voilà. Beaucoup de chrétiens sont frustrés de ne pas voir Dieu agir comme ils le voudraient. Beaucoup de chrétiens le vivent très mal. Certains même, parce que Dieu n'a pas agi, ont abandonné le Seigneur. Vous le savez, il y a des gens qui ont abandonné Dieu parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il leur commandait. Bon, quand on en arrive là, c'est pas étonnant qu'on rétrograde. Jean-Baptiste, lorsqu'il a été envoyé vers Dieu, il a été envoyé vers le peuple de Dieu. C'était déjà le peuple du Seigneur. Il n'a pas été envoyé vers des païens. Il a été envoyé vers tous ceux qui avaient fait alliance avec lui. Mais Israël était tombé dans la religion, dans la tradition. Ils étaient ni plus ni moins des brebis perdues. Ils allaient à la synagogue, ils fréquentaient la synagogue, mais ils ne réalisaient pas la condition spirituelle dans laquelle ils se trouvaient. C'est ce qui va caractériser l'église de la fin des temps, puisque la dernière des sept églises, la Laodicée, ne sait pas dans quelle situation spirituelle elle se trouve, et le verdict est terrible, vous le savez si vous avez lu l'Apocalypse. Il y a des chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils font certaines choses pour Dieu, ils sont agréés de Dieu. Alors ils sont certainement sauvés, je l'espère, mais ils ne prennent pas à cœur les choses de Dieu. Il n'y a pas cette crainte de Dieu. Et je voudrais que nous écoutions bien ces choses. Car laissez-moi vous dire que s'il n'y a pas la crainte de Dieu, nous ne verrons rien. Dieu bénira, parce qu'il fait grâce, il fait pas grâce aux pécheurs. Est-ce qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants? Bon. Mais c'est une chose, la grâce de Dieu, ça n'est une autre de voir sa puissance se manifester. Et du temps où Jean-Baptiste est venu, tout le monde pensait que tout allait bien, c'était le peuple de Dieu, voilà, ils allaient à la synagogue, et ça devait aller. Mais ils avaient abandonné la parole de Dieu au profit de leur propre tradition. Vous le savez, ces textes si sévères. Alors Jean-Baptiste arrive avec son ministère un petit peu particulier, et il leur révèle quelle est la condition spirituelle dans laquelle ils se trouvent. Il va même parfois les traiter d'hypocrites, de race de vipères. Est-ce que Jean-Baptiste aimait vraiment ces gens? Est-ce qu'il les aimait, les gens, Jean-Baptiste? Ça plaisait pas à tout le monde. Hérode, en premier. Il a dû prêcher un baptême de repentance. Tenez-vous bien. On le lit, des fois, on n'y fait pas tellement attention. Mais il a prêché un baptême de repentance. Cela voulait dire qu'il fallait que malgré l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu, ils reviennent à un changement complet. Ce baptême, c'était un baptême qui exprimait vraiment qu'il fallait tout à nouveau, tout recommencer à zéro. Je répète, c'était le peuple de Dieu. Mais le travail s'est fait et quand même, il y a eu un peuple préparé pour recevoir le Seigneur Jésus. Alléluia. Et Jésus est venu, pour que Jésus vienne, il fallait que Jean-Baptiste prépare sa venue. Et chaque fois que la gloire de Dieu est venue, car quand Jésus est venu, la gloire de Dieu est venue, il y a eu toute une préparation. Si j'ai le temps, je le résumerai tout à l'heure. Donc, Jésus est venu, il n'y a rien à dire sur le ministère du Seigneur Jésus-Christ, toute son œuvre est parfaite, de sa naissance au calvaire, à sa résurrection, à sa glorification, toute l'œuvre de Jésus-Christ est parfaite. La Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle et qu'il est entré dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Vous savez ce que cela signifie? Dieu était en train de révéler au monde qu'il ne se manifesterait plus dans un tabernacle ou dans un temple matériel, mais que Dieu se révélerait dans un autre temple. Et vous savez qui c'est l'autre temple? C'est nous. C'est nous. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Quel honneur! Non? Quel honneur! Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Sur la terre, il n'y a pas un honneur plus grand qui peut être conféré. Est-ce que nous le réalisons? Non. Si nous le réalisions, et je voudrais vous aider à ce que nous le réalisions mieux, les choses changeraient dans son royaume. Oui, il y a eu le tabernacle, il y a eu la tente d'assignation, le tabernacle, le temple, et aujourd'hui, après le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, il y a l'Église. Moïse a fait les choses d'après le modèle. Malgré le caractère qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, il n'a pas fait à sa guise, il a fait d'après le modèle. Salomon, des siècles plus tard, a fait les choses d'après le modèle. Il n'a pas fait les choses à sa convenance, pourtant Dieu l'avait rempli d'une grande intelligence. Il n'y a eu personne comme lui qui a reçu la sagesse. Il a fait les choses d'après le modèle. La gloire de Dieu est venue sur le temple de Salomon. Et là, lorsque Jésus-Christ est mort, il a préparé l'Église afin que le feu de Dieu descende sur l'Église. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. L'agneau a été immolé. Il fallait que le feu descende sur le temple, le nouveau temple. Les 120 disciples qui avaient pris au sérieux les commandements du Seigneur. Des milliers, des dizaines, des centaines de milliers avaient été bénis par le ministère de Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur Jésus a donné un commandement, attendez et restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il n'était que 120. 120 qui avaient pris au sérieux un commandement. Ça, c'est un problème aujourd'hui. Comment prenons-nous au sérieux? Je vais essayer de vous donner quelques éléments pour que nous puissions savoir si nous sommes ou non sérieux avec Dieu. Ça, c'est un problème. Ils attendaient dans la chambre haute. Ils étaient, la Bible dit, tous ensemble, d'un même cœur. Comment 120 personnes, hommes et femmes, de conditions différentes, peuvent-ils vraiment être ensemble? De tout leur cœur, de toute leur âme. Quand vous lisez les actes, vous le voyez, ils étaient vraiment unis. Comment est-ce possible? C'est pas possible, c'est facile. Ils étaient morts à eux-mêmes. Dieu avait dit quelque chose, ils l'avaient accepté. Ils étaient en train d'obéir. Nous, on a l'impression qu'ils sont en train d'attendre. Mais en vérité, ils sont en train d'obéir. Et c'est une question déjà que nous pouvons nous poser suite à ce premier élément. Est-ce que nous sommes en train d'obéir à Dieu? Pas parce que je suis présent au culte ce matin, c'est clair. Mais voilà, c'est en fonction de tout ce que j'ai fait cette semaine. Est-ce que semaine, j'étais dans un esprit d'obéissance? Ils n'avaient pas de programme. Vous voyez que c'est bien de ne pas avoir de programme. Ils étaient en train d'attendre parce que Jésus leur avait dit, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de Dieu descende sur vous. Et l'important pour eux, c'était d'obéir. Voilà, dans l'unité, parce qu'ils avaient accepté les propos de Jésus, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils en étaient là. Ces 120-là étaient de ceux qui avaient abandonné leurs propres illusions, leurs propres peut-être rêves, leurs propres intérêts pour chercher uniquement les intérêts du Seigneur. Alors que je vous dis, des multitudes avaient été bénies et ne s'approchaient que pour la bénédiction. Mais ça, le Seigneur le savait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que même si nous ne renonçons pas nous-mêmes, même si nous ne voulons pas porter notre croix, même si nous ne voulons pas nous sanctifier, le Seigneur nous bénira quand même. C'est vrai, il est bon le Seigneur. Et il bénit son Église. Dans le désert, est-ce qu'il ne les a pas gardés pendant 40 ans? Il n'a pas pourvu, il a dit qu'ils ont manqué de rien, que les sandales, les semelles de leurs sandales ne se sont pas usées. Pourtant, est-ce qu'ils étaient en train d'obéir? Mais Dieu a pourvu, voyez. Mais je voudrais que ce matin, pour faire un pas de plus dans la vie de l'esprit, nous comprenions bien ce qui se passe quand il y a la présence de Dieu et ce qui se passe quand on contribue à tout faire pour que sa gloire se manifeste. Ils avaient renoncé à eux-mêmes. Jésus avait dit, vous restez à Jérusalem. Ils sont restés là. Et l'unité que Dieu demande, c'est une unité dans l'obéissance. Aujourd'hui, on veut beaucoup d'unité, beaucoup d'unité. Alors je vais pas partager mes convictions personnelles. Elles sont pas peut-être utiles. Mais l'unité, même dans l'évangélisation, elle doit être sur cette base-là. L'unité que Dieu demande ne doit pas être unité de cœur parce que c'est bien. Ah oui, ça serait bien qu'on fasse ça tous ensemble, à notre guise, à notre façon. Non. L'unité que Dieu attend, c'est une unité d'hommes et de femmes qui sont morts à eux-mêmes, qui sont passés par la croix et qui restent dans un esprit d'obéissance. Il y a beaucoup d'endroits où on veut faire des séminaires, des missions d'évangélisation, mais je le dis avec tristesse, il n'y a pas d'unité. Il y a une unité dans un programme, mais il n'y a pas unité par rapport à la condition requise, c'est-à-dire de mourir à soi-même. Alors, ils s'étaient consacrés, ils avaient compris, ils avaient vécu ces choses, ils avaient réalisé la résurrection de Jésus-Christ, et ils savaient que le Seigneur allait envoyer sa gloire sur le nouveau temple, c'est-à-dire les chrétiens. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut un peuple qui tremble à sa parole. Comment êtes-vous devant la parole? Comment considérez-vous
toute la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'elle sort toute de la bouche de Dieu. Et ça commence toujours comme ça, le déclin, lorsqu'on commence à mépriser la parole. Oui, Dieu l'a dit, mais voilà, ça y est, c'est le début de la fin. C'est le début de l'apostasie, quand on commence à discuter la parole. Et nous le voyons, on va le faire si le Saint-Esprit me conduit, parce que ce n'est pas quand même à moi de choisir les prédications, on va voir combien il est important de prendre au sérieux toute la parole de Dieu. Dieu cherche un peuple qui tremble à sa parole. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas les prédications qui vont faire fureur. Mais de toute façon, on n'a pas, comme je l'ai dit en introduction, à chercher la prédication qui nous ferait plaisir. Il nous faut, si nous voulons voir la gloire de Dieu, entendre ce que Dieu veut. Et Dieu veut un peuple qui tremble à la parole. Moïse a fait selon le modèle, Salomon a fait selon le modèle, et le feu de Dieu est tombé. On peut lire un des textes dans les Actes. On peut lire dans Actes, au chapitre 2, au verset 43. « Moi, je vous encourage, si vous voulez voir la gloire de Dieu, à méditer le livre des Actes. » Réellement, à méditer le livre des Actes pour que vous compreniez quel est le modèle. Le modèle, c'est l'Église primitive. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la peine d'aller à droite ou à gauche, au nord ou au sud. Le modèle, il est dans les Écritures. Acte 2, 43. Acte 2, 43. Vous avez le chapitre 2 résume très bien l'histoire de l'Église de Jérusalem. C'est un chapitre qui commence par la louange, si je ne me trompe pas. Alors, ils étaient ensemble, dont ils louaient Dieu. Et ce chapitre 42 termine dans la louange, verset 47. Mais regardez, verset 42. Ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et la conséquence, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Et c'est une coordination. Et ça nous explique pourquoi il se faisait des prodiges. Parce que la crainte s'emparait de chacun. Alors c'est une question qu'il faut que nous nous posions. Est-ce que réellement, ce matin, sous le regard de Dieu, je tremble à sa parole? Ou est-ce que je fais partie de ces chrétiens qui disaient, que oui, Dieu a-t-il réellement dit, etc., etc. Et aujourd'hui, on croit dans la sécurité éternelle, et aujourd'hui, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut, que Dieu est tellement bon, que de toute façon, c'est un bon père, pour pas dire comme certains, un bon papa, ce qui déjà commence à me contrarier, et ce qui permet justement cette permissivité. Mes frères et sœurs, l'Église primitive était saisi de crainte devant la parole de Dieu. Le résultat de cette persévérance, de cette vie de l'Esprit, de cette obéissance, de ce baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas l'excitation, c'était la crainte. C'est quelque chose d'important, on n'en parle pas aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas amener les gens à quitter l'Église, parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez voir la prédication de Hagé pour terminer, et la pression de Malachie, vous allez voir que les pasteurs à l'époque, ces deux pasteurs, ils n'ont pas dû plaire à tout le monde. Mais ils ont ramené la crainte de Dieu en Israël. La crainte s'emparait de chacun. Voilà ce qui se passait dans l'Église primitive. Et Pierre, qui a vécu la Pentecôte, a écrit quelques années plus tard un texte qu'on va lire. On va lire dans 1 Pierre au chapitre 1er. Il faut lire ces textes. Si on lit tous les textes qui parlent sur la crainte, on n'est pas sorti avant 10h du soir. Sérieux, je ne rigole pas. Je ne le ferai pas. Mais c'est pour vous dire combien de textes parlent sur la crainte. 1 Pierre 1, verset 15. N'oubliez pas, Pierre a vécu le baptême du Saint-Esprit. Il était là dans l'Église primitive. C'est un homme qui a connu l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur dans sa réhabilitation, dans sa restauration. Et regardez ce qu'il dit, lui qui a connu toutes ces choses. 1 Pierre 1, verset 15. « Mais, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous, je répète, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Voilà ce que Pierre, qui a vécu la Pentecôte, qui a vécu les prodiges, les miracles, qui a vécu vraiment la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a beaucoup avancé avec le Seigneur, il dit, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Il y a des choses que Dieu veut faire. Il ne peut pas les faire. Ça, c'est clair. Il ne peut pas les faire. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans ce pays, parlons que de la France, il y a des choses, des œuvres qui sont préparées, des œuvres de gloire, car c'est la volonté de manifester sa gloire. Il ne peut pas les faire. L'Église primitive a pris conscience de la sainteté de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, mais peut-être un petit peu plus, lorsque un couple, jaloux peut-être de ce qu'un certain habitant de Chypre avait fait ou de Crète avait fait pour bénir l'Église, il avait vendu toute une propriété et il avait donné l'offrande à l'Église de Jérusalem. Alors tout le monde peut-être parlait d'eux dans l'Église, tu te rends compte ce qu'ils ont fait. Et Ananias et Saphira, qui étaient certainement un couple qui aimait Dieu. Ils aimaient Dieu, ces gens. Ils aimaient Dieu. Ils ont vu l'Église primitive, ils ont vu l'onction sur l'Église primitive, ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, et peut-être la jalousie, je ne sais pas, en fait, c'est pas grave. En tous les cas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et quand cet homme a vendu sa propriété, eux, ils ont voulu vendre un champ, mais ils n'étaient pas obligés. Ils ont voulu vendre un champ, et quand ils l'ont vendu, en plus le prix était à leur disposition, si vous voulez en donner les 2% ou 20%, ils étaient libres. Ils ont dit qu'ils avaient donné toute la valeur du champ à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé, vous avez lu le livre des Actes. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire, mais comment t'as menti à Dieu? Et vous savez ce qui s'est passé dans la foulée? Ananias est tombé mort dans le temple. Quelques heures après, sa femme arrive. Alors c'est bien à ce prix que... c'est grave, quoi. C'est à ce prix que vous avez vendu le champ?
Oui, oui.
Et sa femme est morte à l'instant même. C'était des chrétiens qui aimaient Dieu. Ils ont vu la gloire de l'Église primitive. Ils l'ont vu, oui ou non? C'est Acte chapitre 5. Ils ont vu la puissance du Saint-Esprit, certainement qu'il faisait même partie des 120. C'est fort probable, sachez-moi qu'il ajoute, mais c'est probable. Et pourquoi Dieu les a-t-il jugés? Parce que, on va le voir, quand il y a la gloire de Dieu, le jugement est imminent. Quand il n'y a pas la gloire de Dieu, le jugement est reporté. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que beaucoup de chrétiens s'imaginent que parce que Dieu ne juge pas, Dieu n'intervient pas, ils ne seront pas jugés. Je mens, mais c'est pas bien grave. Après tout, il ne se passe rien. Je reste debout. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ananias aimait le Seigneur Jésus. Mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué. Je pensais à plein d'exemples. Je pensais même au le premier qui a chuté. Ce n'est pas Lucifer qui nageait dans la gloire de Dieu, dans la lumière étincelante, le responsable de tout un tas de choses. Et il aimait Dieu. Mais il n'a pas eu la crainte de Dieu. Et tous les gens qui ont chuté ou qui ont abandonné Dieu, j'ai lu même dernièrement le témoignage d'un pasteur qui a été en prison, un homme, et vous savez ce qu'il a dit, je remercie Dieu pour la prison, je me suis rendu compte en prison que j'aimais Dieu, mais que je n'avais pas la crainte de Dieu. Et nous pourrions multiplier les exemples. Lorsque Ananias et Saphira sont tombés morts dans l'église, la crainte s'est emparée de chacun. Vous y êtes dans les actes? On peut le lire quand même, parce que c'est quand même des choses à prendre au sérieux. Des fois j'entends, et bien heureusement que ce n'est pas comme du temps de l'église primitive. Mais non. Mais non. Mais si la gloire de Dieu revenait dans l'église, ça serait pareil. Voyez? Quand ils ont emporté Saphira, voyez, acte 5, 10, au même instant elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Comment ont réagi les chrétiens? Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça ce Dieu d'amour? Je ne sais pas, non. Ils ont pas. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça se passerait, il y aurait du remue-ménage. Hein? Une grande crainte, pas une crainte,
une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Tiens que c'est bizarre le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Vous voyez la conséquence, la crainte, ils ont compris la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. On ne rit pas avec les choses de Dieu, on ne devrait trembler, pas avoir peur. Mais devant la parole, Dieu l'a dit, c'est sérieux. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens, même dans nos églises, connaissent un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui passe sur tout, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde. Mais moi j'ai lu dans la Bible que Dieu est amour et que Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous ne voyons pas la gloire de Dieu, parce que nous contentons de sa présence. Et Dieu bénit. Je l'ai dit mardi, lorsque Anne, en pleurs, dans le temple, priait, elle ne faisait que remuer les lèvres. Est-ce que Dieu l'a entendu? Est-ce que Dieu l'a béni? Mais voyez, Dieu a béni cette femme. Mais qu'est-ce qui se passait dans l'antichambre du temple? Qu'est-ce qui se passait par les pasteurs Ophni et Phinès? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces deux frères? C'est le frère. Vous vous rappelez ce qu'il faisait? Il prenait la viande avant qu'elle soit bouillie, parce qu'il ne la voulait pas bouillie. Et ils ont aggravé le problème en couchant avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Des femmes certainement qui venaient sûrement chercher Dieu, en fait j'en sais rien. Je pense que c'était des femmes qui venaient chercher le Seigneur. Et elles se sont faites séduites par ces deux pasteurs. Est-ce que Dieu les a jugées? Non, est-ce que Dieu les a jugées quand ils ont péché dans le temple? Non, Dieu ne les a pas jugés. Le jugement a été différé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu, mais il est dit que la lampe était presque éteinte. Il n'y avait plus la gloire de Dieu. Alors que 25 ans après, quand David va ramener l'arche de l'Alliance, parce qu'il veut absolument que la présence de Dieu se manifeste dans le peuple d'Israël, c'est la première chose qu'il va faire quand il va obtenir la royauté. Alors que Ouza touche juste l'arche pour empêcher qu'elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Parce que la gloire de Dieu était en train de revenir dans le peuple d'Israël. Quand il y a la gloire de Dieu, il y a toujours le jugement sur le péché. Quand Moïse a construit le tabernacle, ses deux neveux qui avaient reçu l'onction. Regardez, lisez le livre de l'Exode et vous allez voir que les fils d'Aaron avaient vraiment reçu l'onction du Seigneur. Et le feu de Dieu est descendu sur l'autel, la gloire de Dieu s'est manifestée, et voilà que eux, parce que, peut-être c'était les neveux d'Aaron, ils sont autorisés à composer un ensemble, un feu étranger. Et quand ils ont offert le feu étranger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. C'était les neveux de Moïse. Mais tout ça c'est écrit. C'est écrit pour nous communiquer la crainte. Nous avons lu ce texte mardi. Mon fils, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. Peut-être que vous me dites, oh monsieur Go, enseignez-nous surtout l'amour de Dieu. Moi j'ai besoin d'amour en ce moment. Oui, c'est bien. Parce que rien ne peut se faire sans amour. Et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. La Bible dit, si un homme n'aime pas, tout ce qu'il peut faire par la foi, par les œuvres, ça sert à rien. Et c'est clair qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut absolument qu'il y ait de l'amour, parce que c'est par amour qu'on apprend à connaître le Seigneur. C'est avec l'amour qu'on va s'approcher de lui. L'amour nous permet de nous approcher de lui. Quand on aime quelqu'un, on a envie de s'approcher de lui. C'est une vérité. Si vous aimez le Seigneur, vous avez envie de vous retrouver dans sa parole. Vous avez envie de le connaître. Comment le connaître? À part sa parole. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas envie de connaître le Seigneur. Si quelqu'un qui vous aime vous écrit, si vous voyez le courrier, ah c'est lui, bon, on verra ce soir si j'ai le temps. Ça veut dire beaucoup de choses. Si la parole de Dieu vous la traitez pareil, ça veut dire beaucoup de choses. Et ne me faites pas croire que vous n'avez pas le temps. Ça c'est entre vous et Dieu de toute façon. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Mais si nous n'avons que la connaissance de l'amour de Dieu, notre connaissance sera totalement fausse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises vivent dans cette espèce de légèreté, de superficialité, d'apostasie, voilà, pour faire court. Quand on est dans la présence de Dieu, on doit avoir du respect. Oui ou non? Moi, je suis désolé, je vous assure que je suis inquiet quand je vais dans certaines églises, comment les gens
parle, bavarde pendant la prédication et il commente la prédication du pasteur. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est trop long. Oh oui, c'est pour ça qu'on le paye. Moi, j'ai entendu de ces trucs. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? C'est une question. Vous ne répondez pas? Voulons-nous vraiment voir la gloire de Dieu? Nos cœurs doivent être remplis d'amour. Nos cœurs doivent être remplis de crainte. L'amour vous attache à Dieu et la crainte vous éloigne du mal. C'est écrit. Par la crainte de l'Éternel, on s'éloigne du mal. Pourquoi tant de chrétiens qui aiment Dieu rétrograde? Mais parce qu'ils l'aiment, mais ils n'ont pas la crainte. Écoutez, ce n'est pas un scoop, mais je vous assure que c'est biblique. C'est exactement ça. Pourquoi des chrétiens rétrogradent? Ils n'ont pas cette crainte. Et ça cause un drame terrible et une pierre d'achoppement. Croyons-nous que Dieu va se révéler, se manifester, là où il n'y a pas le respect de sa parole? Franchement, vous croyez que si on considère l'Église comme ça, je ne parle pas du bâtiment, je parle ce matin, l'Église c'est nous tous, puisque nous sommes chacun une pierre vivante. Vous êtes d'accord? On est chacun une pierre vivante. Et quand je lis la Bible, dans le psaume 25, par exemple, verset 14, ne le cherchez pas, à qui Dieu se révèle-t-il? Il n'est pas dit que Dieu se révèle aux gens qui vont à l'église. Il est dit la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est écrit? Eh oui, c'est écrit. Et s'il n'y a pas le respect, c'est pour ça qu'il faut commencer par le respect. Ananias, ne craignez pas Dieu. Ils n'ont pas eu honte de s'accorder pour mentir. C'est pas grave. Et en plus aujourd'hui, en plus il y avait la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui c'est amplifié. Puisque le jugement n'y est pas. Lorsqu'il n'y a pas la gloire de Dieu, le jugement, je vous le répète, il est différé. C'est Paul il le dit, les péchés de certains sont manifestes, tandis que pour d'autres, ils sont révélés plus tard. C'est un peu ça que ça veut dire. Il y a des péchés, il y a des pécheurs, parfois ils ne résistent pas dans l'assemblée, mais il y en a qui s'y complaisent. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Nadab et Abihu, ils ont reçu l'onction de Dieu par le ministère de Moïse. Ils ont reçu l'onction, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et c'est une question qu'il faut que nous nous posions. Si nous voulons aller jusqu'au bout dans les temps difficiles, est-ce que nous voulons demander à Dieu, enseigne-moi la crainte, le respect de ta parole, par la crainte de l'Éternel, on s'éloigne du mal. Voulons-nous, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 66, que Dieu pose ses regards sur nous? Voulons-nous voir la gloire de Dieu se manifester? Parce que, voilà, ça commencera par la crainte de Dieu, le respect de sa parole. Quand le prophète Agée, on va y aller dans le prophète Agée pour terminer. On va aller dans ce prophète, dans ce petit prophète, enfin petit, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais... Dieu avait demandé la reconstruction du temple. Alors au début, ils y ont été de bon cœur, comme chaque fois qu'il y a une construction dans les églises d'ailleurs, vous savez. Au début, tout le monde y est, et puis au bout de quelques mois, il n'y a plus personne. Alors le prophète Agée est dirigé par le Seigneur, c'est un vrai homme de Dieu, la preuve c'est dans la Bible. Il est envoyé par Dieu pour parler au peuple. Agée chapitre 1er. Le peuple en était arrivé à être très léger avec le plan de Dieu. Regardez ce qu'il disait. Agée chapitre 1er, verset 2. Vous l'avez trouvé? Hein? C'est un des derniers livres avant le Nouveau Testament. Vous savez, hein? Agée, lisez-le. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que bon, allez, cherchez-le. Cherchez-le. C'est important, c'est important. Vous savez, tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. C'était dans une période où le temple aurait dû être reconstruit en son temps, et ça traînait, comme aujourd'hui, ça traîne, l'œuvre de Dieu traîne. J'exagère ou non? Est-ce que j'exagère? Bien non que j'exagère pas. Agée chapitre 1er, voilà, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez, eux pour eux, oh ça traîne, c'est pas grave, ça se fera bien quand même. Alors, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Verset 4. Quand cette maison est détruite, Ainsi parle l'Éternel des armées. Ça, c'est les conséquences. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous ne croyez pas qu'on fait... On a eu fait beaucoup, beaucoup d'évangélisation. On a distribué un évangile dans toutes les maisons de Toulouse. Oui ou non, monsieur Richer, hein? On a beaucoup semé. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud, etc., etc. Vous voyez? Au verset, on peut lire quand même le verset. Ne vous comptiez sur beaucoup, voici, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Voyez, Dieu est en train de dire, mais pourquoi votre maison a plus d'intérêt que ma maison? Alors, est-ce que c'est bien d'avoir de jolies maisons? Est-ce que c'est bien d'avoir une belle maison? Mais bien sûr, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu ne dit pas qu'il est contre ça. Dieu dit qu'ils ont négligé la maison du Seigneur pour s'occuper de leur maison. Et moi, je crois qu'il y a un temps pour tout et qu'au contraire, il faut bien s'occuper de sa maison. Mais quelle est notre priorité? Répondez. Soyez sérieux, vous êtes sous le regard de Dieu, ce n'est pas Monsieur Gault qui vous pose la question, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que c'est qui passe en premier dans votre vie? Est-ce que c'est la maison de Dieu ou est-ce que c'est votre belle maison? Il vous faut répondre avec beaucoup d'honnêteté, sinon ça ne sortira pas. Il faut que vous puissiez dire, mais oui, c'est vrai, moi, ma baraque, mon boulot, mes affaires, tout ça, ça passe en premier. Soyez honnête, Dieu vous aidera. Ne vous inquiétez pas, quand on est droit, Dieu il nous aide toujours. J'ai jamais vu Dieu ne pas aider quelqu'un qui était honnête. Jamais vu. Dieu, comme on l'a entendu dans la prophétie, il fait une chose, il résiste aux orgueilleux. Mais après, il fait grâce. Dès qu'on s'humilie. Et c'est là le problème. La construction du temple tardait. Ils se sont autorisés à dire, ben, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Mais il y a des chrétiens. Bon, ben, le temps, vous savez, Jésus va revenir. Attendons-le. Les gens, ils veulent pas se convertir. Après tout, s'ils veulent la colère, ils l'auront. Je résume, mais on entend des gens qui ne veulent plus évangéliser, plus servir Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que notre Père, sur son trône, veut que des âmes soient sauvées avant que l'Église soit enlevée? Eh bien, bien sûr. Et nous devons accepter. Nous devons accepter. Gardez la page et allez un petit peu plus loin dans le prophète Malachie. Dans le prophète Malachie, gardez bien cette page, hein, s'il vous plaît. Dans le prophète Malachie, à peu près un siècle s'est passé. Un siècle s'est passé. Et le problème recommence. Un autre problème. Vous y êtes? Alors, Malachie chapitre 1er, verset 6. Lisez-le ce livre, ça vaut vraiment la peine de le lire. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si on aurait pu donner comme titre à la prédication cette question, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ou celle-ci, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi vont-nous mépriser ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Ôte-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Et vous lirez tout ce chapitre dans votre culte personnel cette semaine. Donc Dieu pose la question. Dieu pose certaines questions. Mais nous pouvons nous poser la question aujourd'hui. Mais où en est l'Église aujourd'hui? Quelle est la passion que nous avons pour l'œuvre de Dieu? C'est vrai, il n'y a pas de temple à construire, mais notre cœur, notre corps, est-ce qu'il ne faut pas que notre corps, notre âme et notre esprit soient sanctifiés? Avons-nous toujours la passion des âmes, l'édification de l'Église? Est-ce que c'est important pour vous l'édification de l'Église? C'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est important pour vous? Ou vous voulez que je pique un sermon que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans et... On peut le faire. Moi aussi, je peux regarder la télé jusqu'à minuit et me lever à 7 heures du matin. Je peux le faire. Mes frères et sœurs, moi je vous dis que Dieu veut manifester sa gloire. On peut chanter 1000 ans, sans interruption, « Envoie la puissance sur ton peuple », si nous ne nous consacrons pas à Dieu, il ne se passera rien. Du temps d'Agé, ils n'étaient pas prêts à restaurer le temple. Ils s'occupaient de leur maison. Alors je le répète, oui, il faut s'en occuper. Soyez sérieux dans votre maison, que votre maison, c'est un témoignage, soit bien entretenue. C'est quand même terrible quand on va dans des maisons de chrétiens qui sont sales et dérangées. Je crois quand même que quand on a le Saint-Esprit, il me semble qu'on devrait être propre. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu pose la question, il faut quand même y répondre. Où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que Dieu peut poser cette question ce matin? Est-ce que Dieu doit être honoré dans sa maison? Ouais. Il disait, mais tu m'appelles Seigneur, tu m'appelles mon Seigneur, mais où est l'honneur qui m'est dû? Et le peuple gardait pour lui ce qui revenait à Dieu. Et quand ils faisaient une offrande, ben ils offraient une brebis qui était malade, qui était handicapée, qui était aveugle. Bon, celle-là, de toute façon, on ne pourra pas bien la vendre. Alors, on va la donner au Seigneur. Alors là, quand même, vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas concerné. Je n'ai pas besoin d'amener des tourterelles, des pigeons, un bouc, une chèvre, un veau, un bœuf. Mais mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est un sujet tellement délicat. Mais quand même, ça passe aussi par là, la gloire de Dieu. Et ceux qui sont spirituels le comprennent. Comment travaillons-nous pour Dieu? Comment tu travailles pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais de tes talents, de tes dons? Je vais plus loin, de tes moyens. Ah, monsieur Gaud, n'entrez pas dans ce sujet si sensible. Mais Dieu en parle. Quand Dieu en parle, c'est sérieux. Quand les pasteurs en parlent pour faire des appels d'argent, c'est une infamie. Quand Dieu en parle pour nous faire prendre conscience de la façon dont nous offrons les choses à Dieu, c'est extrêmement sérieux. Et je me suis posé la question hier soir, si certains chrétiens travaillaient pour leur employeur comme ils travaillent pour Dieu, je peux vous dire qu'au bout d'une semaine, ils seraient licenciés. Et je vous pose une autre question, qu'est-ce que c'est qui est le plus important, votre travail ou Dieu? Le rendez-vous au boulot ou le rendez-vous à l'église? Vous n'arrivez pas en retard au travail. Vous avez la crainte. Oui, comme dit un frère, il y a la pointeuse. Hein? Mais beaucoup, les chrétiens n'arrivent pas en retard au travail. Mais quel est l'honneur que nous rendons à Dieu quand les chrétiens arrivent 10 minutes en retard au culte? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Vous avez compris, je ne suis pas là moi pour juger, je ne suis pas sur l'estrade en train de regarder qui c'est qui arrive à l'heure ou pas. Ça ne me regarde pas, sérieusement, j'ai autre chose à faire avant le culte. Mais est-ce que nous pouvons dire que nous respectons la parole, que nous respectons Dieu quand on arrive en retard au culte? Dites, et je ne vais donner que cet exemple, mais très sérieusement, est-ce que Dieu ne mérite pas que quand le culte commence, nous soyons tous devant lui pour l'adorer? Et sans compter, parce que ça je le sais, le désagrément que cela cause dans les classes d'école du dimanche, que des gosses arrivent à 10h, il faut recommencer la leçon ou la résumer une fois, la résumer deux fois, parce que des enfants arrivent et perturbent la leçon, sans compter les gens au fond nouveaux qui sont perturbés parce qu'il y a des va-et-vient, etc. Alors c'est normal qu'il y ait des va-et-vient, quand on est 250 dans un lieu, il est tout à fait normal que quelqu'un puisse se lever pour aller aux toilettes, ça peut arriver. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu dit, mais où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que Dieu a droit à l'honneur? Plus qu'un cantique, aussi merveilleux qu'il soit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Est-ce que franchement vous pensez que Dieu mérite plus d'honneur que votre patron? Il faut répondre. Il faut être sérieux. Alors, vous honorez votre patron, j'espère que vous l'honorez. Parce que si vous avez un salaire, c'est grâce à lui. Ne l'oubliez pas. Mais mes frères et sœurs, Dieu mérite-t-il plus d'honneur que notre patron? Répondez. Si, on peut faire une comparaison. Parce que Dieu l'a fait la comparaison. Dieu l'a fait exactement dans Malachie au chapitre 1er. Il fait la comparaison, il dit, mais allez offrir une bête au gouverneur, à votre patron, à votre maître. Comment vous recevra-t-il? Et c'est comparable. Et comment? C'est pour ça que Dieu utilise cette comparaison, pour que nous comprenions bien que nous sommes capables d'honorer un patron, un responsable, un élu, etc. Nous sommes capables de l'honorer et que nous manquons d'honneur à notre Dieu. Quelqu'un qui tremble à la parole, il est déjà saisi par cette pensée, alors que c'est qu'une question de respect, d'horaire et la façon dont j'apporte mon offrande à Dieu. Et c'est ce qui a pénalisé l'église, le temple, du temps du prophète Malachie. Et priez mes frères et sœurs, pour que des pasteurs comme Agé et des pasteurs comme Malachie se lèvent. Il faut prier pour que dans les églises nous entendions la vérité. Dans toutes les églises, de notre pays, est-ce que ça pourrait être possible que partout la trompette de Dieu résonne et qu'on se mette tout à nouveau à avoir la crainte de Dieu? Et regardez, grâce à la prédication de Agé, je vous avais dit de garder la page, mais regardez au verset 12, regardez avec moi, Agé chapitre 1er verset 12, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que Dieu lui avait donnée, l'Éternel leur Dieu. Et, regardez, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alléluia. Et voyez comme quoi la prédication, même si elle est sévère, elle peut provoquer une réaction. Et le peuple a été saisi de crainte. Ils ont bien sûr, ils devaient percevoir l'amour de Dieu qui voulait que le temple soit reconstruit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la gloire de Dieu se manifestait dans le temple. Aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifeste dans les chrétiens qui sont le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que nous venions, le cœur purifié. Il ne faut pas se purifier qu'à la Sainte-Seine. Je me souviens de ces deux jeunes qui étaient venus me voir et qui me dit, vous savez, monsieur Gault, on vit ensemble, on couche ensemble la semaine et le samedi soir, on prie pour être purifié, pour aller à l'église. Mais je dis, mais vous êtes dans le péché. Mais non, on le fait sérieusement. Je crois que c'est du matin au soir, du soir au matin, du lundi au dimanche, que nous nous appliquons à faire en sorte de respecter la parole de Dieu. Quand nous craignons Dieu, nous cherchons non pas nos intérêts, mais les siens. C'est comme ça. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Eh bien, les intérêts de Dieu passent en premier. Le culte passe avant la demi-finale. Le culte passe avant le match de foot. La réunion de prière passe avant la réunion. La réunion de prière passe avant l'émission télévisée. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est les choses de Dieu qui sont en premier. Quelqu'un qui aime Dieu n'a pas forcément Dieu en premier. Mais bien sûr qu'ici, il n'y a que la crainte, il manque une immense dimension parce que la vie avec Dieu est une vie d'affection et de tendresse avec le Seigneur. La crainte de Dieu est revenue. Alors on pourrait prendre plein de textes. Mais dès qu'on rétablit les choses, le feu descend. Élie a rétabli l'autel, pour rappeler l'autel était dispersé, il a rétabli l'autel, il a mis l'holocauste dessus et quand il a prié, le feu de Dieu est descendu. Alors, ou nous nous contentons de sa présence, et Dieu nous fera grâce. Vous inquiétez pas, Dieu vous fera grâce. Dieu fera toujours grâce à ses enfants, toujours. Il nous gardera, mais nous pouvons passer à côté de la manifestation de la gloire de Dieu parce que nous ne nous appliquerons pas à faire ça d'après le modèle. Et relisez les actes et vous verrez que le modèle, ça commence par la crainte et l'obéissance. Ils ont obéi, Dieu avait dit « vous prierez » et Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu dit « ma maison sera une maison de prière ». Et nous devrions nous appliquer à faire en sorte que l'église soit une maison de prière. Même s'il faut venir avec ses enfants, même s'il faut venir de loin, puisque vous avez choisi bien sûr si vous êtes très loin, mais faites-le chez vous, faites-le dans votre maison, faites-le avec votre mari, avec vos enfants, faites-le d'une manière sérieuse. Ma maison est une maison de prière. Chez moi, je prierai avec ma femme, je prierai avec mes enfants. Mes frères et sœurs, la gloire de Dieu, elle ne se manifeste pas n'importe comment, il faut la préparer. On ferme les yeux quelques instants. Nous sommes sous le regard du Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, moi je suis convaincu que Dieu veut agir. Alors c'est vrai que s'il y a la gloire de Dieu, il faut s'attendre au jugement. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ou est-ce que ça nous effraie? Eh bien, c'est un choix. Est-ce que nous serions perdants si nous avions la gloire de Dieu? Même si les pécheurs ne pourront pas résister, à moins qu'ils ne se repentent, dans la maison de l'Éternel, bien sûr que nous serons gagnants et comment? Et je m'adresse à chacun de nous. Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Maintenant, c'est facile, on est là. On va prendre la Sainte-Seine. Je vais demander à Monsieur De Dieu Olivier de choisir quelques frères pour la Sainte-Seine, s'il vous plaît, maintenant. Là, c'est presque facile. C'est presque facile, là. On est dans la présence de Dieu. Il y a l'onction du Saint-Esprit. On va prendre le pain et le vin. On se remet en question. On dit, mais c'est vrai. C'est vrai, quand même, cette histoire de rendez-vous. Il a raison. Je ne cherche pas à avoir raison. Vous me connaissez. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. C'est Dieu qui dit les choses. Où est l'honneur? Où est la crainte de Dieu dans cette église? Quel est le service que vous faites pour Dieu? Qu'offrez-vous à Dieu? Comment offrez-vous votre offrande à Dieu? Offrez-vous ce que vous avez envie d'offrir ou offrez-vous ce que Dieu vous demande? Si vous lisez tout le prophète Malachi, vous allez voir que ça a été une bénédiction quand tout le peuple s'est mis à donner ce qu'il devait donner. La bénédiction est venue, et ceux qui craignèrent l'Éternel se sont concertés. Ils ont dit, mais il a raison le pasteur, il a raison le prophète. Et Dieu les a bénis. Vous savez que ce que je vous ai dit, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas une idée qui m'est passée par la tête. C'est le résultat de chrétiens qui prient pour voir la gloire de Dieu, et que nous comprenions combien la gloire est liée au jugement, et combien le jugement n'y est pas s'il n'y a que sa présence. C'est pour ça que des chrétiens se plaisent dans le péché et en même temps sont dans l'église. Il y a des chrétiens qui peuvent regarder un film pornographique le dimanche soir et venir au culte le dimanche matin, ça changera rien. Mais je peux vous dire que le jour où Dieu manifestera sa gloire, il y aura du changement. Même si des âmes partent, la gloire de Dieu fera que tous les pécheurs qui cherchent rencontreront la grâce. C'est pour ça que Jésus dit, mais choisissez qui vous voulez servir. Choisissez, choisis le bien. La Bible est catégorique, l'Apocalypse termine avec un choix d'une sévérité totale. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. Si vous voulez vous souiller, souillez-vous. C'est votre choix. Il sera terrible, mais c'est votre choix. Si vous aimez le péché, si vous aimez les ténèbres, eh bien continuez à les aimer. Mais si vous aimez Dieu, si vous aimez Jésus, demandons-lui cette crainte. Car les regards de Dieu sont dans une église où l'on tremble à sa parole. Et c'est comme ça que Dieu fera descendre son feu. Il n'y a pas de méthode. Moi, je ne veux aucun programme. Je refuse aucun programme. Le programme, c'est une obéissance, la crainte, l'amour. L'obéissance joyeuse. Approchez-vous, les frères, pour préparer la Sainte-Seine, s'il vous plaît. Nous sommes devant lui. Et Jésus nous pose encore la question, où est la crainte qui m'est due? Dans ton cœur, dans le mien. Où est l'honneur qui m'est due? Je vais commencer à régler la ponctualité, je vais commencer à régler ce problème peut-être d'offrande ou de dîme. C'est sérieux cette affaire. J'en parle avec extrêmement prudence parce que je sais que c'est délicat. Mais quand même, si la bénédiction de Dieu est liée à ça, il faut en parler. L'Église n'a pas de problème financier, mais ce n'est pas une question de réserve financière. Ce n'est pas ça, c'est une question de bénédiction par rapport à l'onction de Dieu. C'est quelque chose de profondément sain. Lorsque Dieu a dit à Moïse de faire certaines choses, il dit, c'est une chose très sainte. C'est très important que notre corps, notre âme et notre esprit soient sanctifiés. Et si j'ai voulu prendre le pain et le vin après, c'est pour prendre la victoire. Parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de te montrer, mon frère, de te montrer, ma sœur, un péché, quelque chose qui doit être réglé. J'ai parlé de la ponctualité, mais c'est le plus petit des trucs. C'est la plus petite chose. Mon frère, ma sœur, vous qui voulez voir vos enfants à genoux devant la croix, Nous qui voulons voir nos amis, nos familles, même nos ennemis à genoux. Pas devant nous, mais aux pieds de Jésus. Nous qui voulons voir les notables, les clochards, les pauvres, les riches. Par la crainte de l'Éternel qui s'emparera de chacun. Ce matin, mon frère, ma sœur, vous qui n'êtes pas encore baptisés, faites un choix. Faites un choix, ou pour Jésus, ou pas pour lui. Mais faites un choix. Oui, les 120 étaient morts à eux-mêmes. C'est pour ça que le feu est descendu. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion, maintenant, de se lever à leur place et de prier dans leur cœur, dans leur être intérieur, de répondre à cette prédication. Oui, Jésus, j'ai manqué de crainte. Je t'aimais et je t'aime, mais je n'ai pas la crainte devant le péché, ça me convient. Lorsque je regarde la violence à la télé, ça me plaît. J'ai pas la crainte de l'Éternel. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Il va vous aider. Il va vous aider. Vous qui restez assis, qui n'êtes pas encore convertis, qui n'êtes pas encore repentis, qui n'êtes pas encore baptisés, prenez cette décision de vous repentir. Pour préparer le peuple, il a fallu un baptême de repentance. Une complète repentance. Une entière repentance. C'était pas juste repentez-vous, bon, c'est, allez, vous êtes le peuple de Dieu, il faut aller juste, allez, c'est bien. Vous êtes partie de l'Alliance, allez, c'est bon, allez-y. Non. Repentez-vous. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La promesse, elle est pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. Oui, frères et sœurs, prenons le pain et le vin. Rappelez-vous qu'ils représentent l'alliance pour qu'un nouveau temple soit construit. Les croyants sont le temple. Voulons-nous voir la gloire sur le temple? Voulons-nous voir la gloire dans nos réunions? Alors que le temple soit sanctifié, Dieu va nous aider. Il n'est pas là pour nous juger, pour nous accabler. Et si, lui, justement, il compare la façon dont on traite un patron et la façon dont on le traite à lui, c'est très intéressant. Oui, parce que Dieu mérite plus que n'importe quel chef d'État ou quel gouverneur du monde. Vous êtes d'accord? Prenons ce pain et ce vin avec beaucoup de joie. Si on reste dans le silence, ce n'est pas grave. Si quelqu'un veut prier, qu'il prie. Si quelqu'un veut se repentir, qu'il prie. Que tout se fasse dans l'ordre et la bienséance.